Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio follement normale. Ici, les idées fusent, les micros s'agitent et les échanges ne tiennent jamais en place. Un espace de partage, d'écoute et de réflexion, un vrai terrain de rencontre sonore. Nous sommes en direct depuis le studio et nous vous accompagnons jusqu'à 16h30. Bonjour à nos participants du jour. Alors, ça fait plaisir aujourd'hui parce qu'on a aussi beaucoup de nouveaux. On a Annika. Bonjour Annika. On a Magali. On a Amanda. On a Léonard. On a Sia. On a Nathan. On a Sabrina. On a Christine. Et à la technique, on a Julien. Bonjour Julien, qui nous fait signe de la main. Merci à, en tout cas d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, place aux échanges autour de thèmes choisis par nos invités et d'un thème d'actualité que je vous propose, la neige. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter sur les ondes de Pavillon Nomade. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Sabrina, ça fait plaisir de vous avoir autour de la table.
Plaisir partagé.
Alors, un grand sourire, Sabrina. Alors, pour ceux qui ne nous entendent pas, hein, enfin, qui nous entendent, mais qui ne nous voient pas, Sabrina a un sourire très, très contagieux. On la regarde, c'est incroyable. Sabrina, vous avez décidé aujourd'hui de nous proposer de parler autour des animaux. Déjà, aujourd'hui, quelle est votre profession? Qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est une invitée de marque aujourd'hui. Hein. C'est rare qu'on ait des professionnels de la santé qui viennent autour de notre table. Et aujourd'hui, on a Sabrina. Vous êtes?
Alors, je suis infirmière au Châtaignier et aussi maman parce que c'est aussi un métier à temps plein. Donc voilà.
Alors, on profite de saluer toutes les mamans, tous les papas et tous les collaborateurs. Et là, quand je dis collaborateurs, c'est du pôle de psychiatrie, de psychothérapie, hein, tout le PPP entier pour le travail formidable que vous faites. Mais les animaux, pourquoi aujourd'hui les animaux? Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler ça?
Alors, pourquoi les animaux? Déjà, avec le thème de la neige, vu les températures qui baissent, on pense forcément aux animaux dehors. Et voilà, donc moi j'ai pensé au petit chat qu'on a au Châtaignier et je me suis dit, bah, le pauvre, il va être tout mouillé avec la neige et voilà, d'où la raison de ce sujet.
Mais quand vous dites un chat dans le pavillon, alors ça doit peut-être percuter un petit peu nos auditeurs, auditrices, se dire, à Malivaux, on a des animaux?
On a des animaux.
Alors, on a un chat. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire du chat? D'ailleurs, est-ce que c'est toujours le même chat? Parce que je sais qu'il fut un temps, il y avait deux chats. Il y en avait un chat noir. Alors, il n'y a aucune superstition. Hein, mais qui s'appelait... Je ne sais plus comment il s'appelait. Alors, je ne sais pas si quelqu'un... Alors, Magali, prenez seulement le micro déjà. Vous avez...
Il me semble qu'il s'appelait Cookie. Mais c'est
Cookie, exactement. Vous l'avez connu, ce fameux chat?
Il avait déjà disparu en 2025.
Alors, qui a connu ce fameux chat, Cookie? Alors, on a Amanda et Christine. Amanda.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour, alors, bienvenue.
Merci. Moi, je suis déjà venue, mais c'est pas grave. Justement, ce chat, en fait, il est souvent venu sur mon lit. Justement, elle venait se faire des câlins, quoi, en fait. Et puis, je pense qu'elle ressentait un peu les émotions et tout. Puis, elle venait souvent dans ma chambre. Puis, quand il y avait les goûters de Noël, elle venait regarder ce qu'il y avait, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est assez rigolo, quoi. Donc voilà, ouais. En gros.
Donc vous l'avez connue, et ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez dit, elle venait vers moi, et puis il y avait comme un moment où vous dites, on avait presque pressenti de dire, je me sentais rassurée, ça me faisait du bien qu'ils viennent, c'est ça?
Oui, puis moi j'ai aussi une femelle aussi chez moi aussi, qui s'appelle Minette.
Qui s'appelle Minette.
Ouais, ouais, elle est adorable, c'est une chatte norvégienne.
Alors,
je ne sais pas si vous voyez, c'est des poils mi-longs.
Alors, moi, ça ne me dit rien, mais s'il y en a qui veulent aller découvrir, vous allez sur Internet, vous tapez chat norvégien, et puis vous allez peut-être voir à quoi ça ressemble. Christine, bonjour Christine.
Bonjour Jimmy.
Vous avez bien connu ce fameux chat?
Oui, j'ai bien connu à l'époque, on le chassait de la cafétéria.
J'allais dire, qu'est-ce que vous avez comme anecdote croustillante? Qu'est-ce que vous avez comme anecdote croustillante à nous raconter?
Il y avait des pancartes, c'était interdit de donner à manger aux animaux, donc aux chats. Ils avaient l'interdiction de rentrer dans la cafétéria. Et puis, ils étaient moitié sauvages. Mais quand ils venaient dans les pavillons, ils venaient se faire câliner et tout ça. Et puis là, je rebondis parce que ma fille s'occupe de personnes âgées, d'enfants avec des petits chiens d'un kilo et demi, des chihuahuanas, et un bull staff de 60 kilos. Et elle parcourt des EMS et des foyers pour enfants, etc., avec des animaux, pour faire de la thérapie et pour faire de l'amitié entre les animaux et les humains.
Ouais, et ben c'est très bien de le rappeler d'ailleurs. Comment ça s'appelle cette thérapie avec les animaux? Est-ce que quelqu'un sait la nommer? Magali, prenez le micro, on vous écoute.
Je crois que c'est la zoothérapie. Moi, c'est ce que je fais aussi avec mes chiennes. Depuis la mort de mon papa, je retourne à l'EMS où était mon papa et ça me met des sourires, ça fait marcher les gens, ça met de la gaieté d'amener deux chiens dans un EMS. Et même les infirmières me disent, revenez plus souvent. Ça fait bouger les gens.
C'est vrai, ça met de l'espoir, ça met un moment de convivialité. D'ailleurs, je salue nos collègues de l'UPPA qui ont été instigateurs là, d'un projet dans leurs unités. L'UPPA, c'est l'unité pour la psychiatrie de la personne âgée et ils ont un projet en route de zoothérapie. Alors, j'irai me renseigner un peu plus. Peut-être on les invitera un jour pour qu'ils nous en parlent. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, on a plus en plus de lieux qui accueillent les animaux. On sait aussi que le lien, on a d'ailleurs d'autres thérapies avec les animaux. Il y en a, c'est la thérapie avec le cheval, hein, proposée, je crois, par Domus, qui s'appelle l'attaque. Et on sait qu'il y a de très, très bons. Alors, est-ce qu'on pourrait faire pareil avec les cochons de l'hôpital? Parce que je crois, est-ce qu'on a encore les cochons à l'hôpital? Julien, Nathan, est-ce qu'on a encore les cochons? Bonjour Nathan.
Bonjour tout le monde. Il y a encore un cochon à l'hôpital. Je crois que c'est un cochon laineux.
Oui.
Mais moi, je l'ai juste vu, je ne suis jamais allé le caresser. Du coup, je ne sais pas trop. Je ne pourrais pas trop dire, je ne sais pas si quelqu'un sait.
Mais déjà, il s'appelle comment?
Aucune idée, je ne sais pas comment il s'appelle.
Magali, dites-nous, vous vouliez prendre la parole, on vous écoute.
Moi, j'ai réussi à le caresser, mais je ne sais pas non plus comment il s'appelle. Moi, j'ai cru que c'était une truie, parce qu'elle a des tétines.
Alors, il me semble qu'il y avait un couple. Hein. Il y avait Rosette ou...
Oui, j'ai entendu qu'il y avait un couple avant, mais je ne sais pas du tout. Alors, moi, je ne peux pas vous dire.
Mort, mais après, je sais pas.
Alors, Gabriel, je sais que lui, il a toute l'historique. Alors, si Gabriel nous écoute et qu'il arrive à faire un crochet par le studio, d'ailleurs, toutes les personnes qui nous écoutent à l'heure actuelle, sachez que vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment, ne serait-ce que pour écouter et partager. On est en dessous... du RACO dans notre studio Pavillon Nomade. C'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas. Christine.
Kaina a fait 5 formations pour les chevaux et 3 formations pour les chiens. Sa dernière formation pour les chiens, c'est d'aller chercher les chiens d'attaque. Les gens font des paris sur les chiens. Ils les affament, ils les battent. Et après, ils font faire des concours et elle doit aller avec la police parce que les flics, ils ont peur des chiens, ils n'osent pas les sortir des caves. Et c'est elle qui les sort des cages.
Elle les sort des cages. Et en plus de ça, est-ce qu'elle fait un travail, on pourrait dire, de...
Il les pique.
De réhabilitation? Ah non, carrément, c'est pour les prendre...
C'est des chiens d'attaque à mort.
Ah oui, alors là, je pense que peut-être qu'on ne peut plus
elle
rien
fait
faire.
Elle fait des cauchemars.
Un chien qui a été dressé pour l'attaque, on peut... c'est pas irréversible.
Il les batte, il les sous-alimente et après, il les fout ensemble dans une cage pour faire des paris.
Oui, alors ça, c'est quand même... quand on voit... Quand on entend au début d'émission la présence, le bien-être, l'échange, la bienveillance qu'il peut y avoir commun avec ces deux êtres vivants et de se dire qu'on peut les formater pour en faire des chiens d'attaque, c'est quand même... en tout cas, Pavillon Nomade ne soutient pas et je suis sûr, je vois la tête, tout le monde touche la tête, on soutient en tout cas pas ce genre de pratique. Amanda.
Oui, Amanda Mélodie, je préfère qu'on m'appelle Mélodie, c'est plus simple.
Alors, je vais vous appeler Mélodie parce que c'est marqué Mélodie Amanda.
Moi,
alors...
je voulais juste savoir, est-ce qu'à la forêt, on a le droit de prendre un chat et puis le nourrir comme au laurier ou bien les autres pavillons?
Alors, à l'heure actuelle, on n'est pas censé d'avoir d'animaux dans les structures de soins. Hein. On fait partie de l'hôpital du Valais. Il y a un règlement qui est en lien avec l'hygiène, avec des normes d'hygiène. Alors, quand il y a un projet en route, bah là, c'est un projet qui est différent quand je parlais de l'UPPA. Et puis, on a ces zones grises de ce fameux chat qui arrive et qui est là. Et puis, on voit qu'il fait du bien. Mais non, pour l'instant, on ne peut pas commencer à se dire on va faire une ménagerie à l'intérieur de chaque pavillon parce que les animaux font du bien. Mais la réflexion se fait, commence et petit à petit fait son chemin avec la zoothérapie. Christine.
Elle pourrait venir faire des stages.
Alors, tout est ouvert.
Avec ces
pour
deux
l'instant.
Chiens, le Gustave de 60 kilos et le Titi d'un kilo et demi.
Un Titi d'un kilo et demi.
Des chihuahuas nains.
Ouais, c'est un chihuahua nain d'un
ça,
kilo et demi.
Ça, c'est pour les gens qui ont peur.
C'est plus réellement un petit chihuahua. Là, on est
et
déjà
puis
dans
le
une espèce.
Le Gustave de 60 kilos, c'est pour les gros balèzes qui veulent voir des grands chiens.
Qui autour de la table a un animal de compagnie? D'ailleurs, on va essayer de faire un vote à main levée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est une dizaine aujourd'hui présents autour de la table. On a quasi une majorité d'animaux. Qui a envie de parler finalement de cette relation, de ce lien qu'il a avec son animal? Christine.
J'en prendrai plus jamais. J'ai eu trop mal au cœur quand ils sont partis ou quand ils sont morts.
Alors, c'est vrai, quand on a des animaux, on doit accepter que c'est des êtres vivants, du lien qu'on crée avec eux et aussi de se préparer un jour à les voir s'en aller.
J'avais un Saint-Bernard qui était croisé de bulldog et dog allemand. Il faisait 89 kilos. Il obéissait qu'à moi. Mais on est parti en Égypte et le climat, ce n'était pas possible. J'ai dû le laisser en Suisse. Ah, et depuis là, j'ai plus jamais pris un chien.
Eh ben, je peux comprendre, mais n'empêche qu'on peut réessayer. Qui a envie de partager un petit peu sur son animal de compagnie ? Alors, Magali, on vous écoute.
Moi, j'ai eu deux chiens, mais aussi des perruches. Et puis une, je l'ai trouvée dans le jardin. Une perruche ondulée, toute blanche. Elle était dans un arbre, dans un arbuste, pardon. Et j'étais là, non, je rêve. Il y a une perruche dans le jardin. Et non, je ne rêvais pas. Puis comme j'avais des calopsites dans mon appartement, j'ai vite été chercher des graines. Et puis elle est venue près de moi, sur mon doigt. Et puis je l'ai vite mise dans une cage à part. Et puis après, elle était avec les calopsites. Et puis ils se sont bien entendus.
Ah bah ça fait plaisir en tant comme anecdote. Mais est-ce que ces animaux, est-ce que dans le partage que vous avez avec, est-ce que c'est des moments qui vous font du bien? Est-ce que c'est des confidents aussi à un moment ou pas?
Oui, je leur parle bien sûr. Oui.
Et vous parlez de quoi? De tout et de rien ou alors sans rentrer dans votre sphère privée, hein, bien sûr, hein, mais...
De tout, je leur parle, ça va et tout, puis ils me répondent, parce que les calopsites, c'est les perruches qui ont les joues rouges. Les grandes perruches. Et puis j'ai eu comment on dit, des bébés, et puis une, je l'ai nourrie à la main. Donc elle venait aussi sur le dos.
Et quand vous dites, elles vous répondent, ça veut dire qu'elles émettent un petit son et que vous sentez qu'il y a une connexion. Et puis en fonction de l'intensité, bah, vous en déduisez.
Moi, je sifflais, puis elle répondait.
Ouais. Mais vous avez raison, moi j'ai un chat parleur. Alors on l'appelait le chat parleur parce que c'est une amie qui venait à la maison et qui dit mais toi t'as un chat qui parle, parce que je pense que les animaux c'est quand même cette faculté de comprendre les choses, d'échanger, et puis quand ils font des bêtises ou quand ça va pas on leur dit, et puis il était là j'ai l'air de dire oui c'est bon, j'ai envie de quand même de manger là ou de faire ça, mais régulièrement il y a une petite intonation différente en fonction de comment on s'adresse à eux. Donc oui, je pense qu'on doit avoir une sorte de communication qui est de l'ordre de peut-être des émotions, du son, peut-être de l'intensité du son. Sabrina.
Alors, pour ma part, je n'ai pas d'animaux chez moi, mais j'essaye d'inculquer à mes enfants qu'il faut respecter les animaux, en prendre soin. Donc, autour de la maison, on a mis des gamelles pour que les chats puissent venir manger ou d'autres animaux. Mmh. Et des petites maisons pour les oiseaux avec des graines, des petits vers séchés. Comme ça, au moins, même les enfants comprennent qu'il faut prendre soin des animaux.
Vous avez tout à fait raison. Mélodie ?
Oui, moi, je voulais juste dire que j'ai grandi avec des boxers femelles. Donc, depuis toute petite, j'avais 6 ans. Et puis, la première, elle avait justement 8 mois. Et puis, justement, moi, j'hésite à reprendre un boxer parce que j'ai grandi avec ces chiens. Donc, j'hésite. Après, il faut des accords de la police pour ces chiens-là parce qu'ils sont... Il faut que le maître soit bien avec le chien, en fait.
Alors, ça c'est sûr. D'ailleurs, vous avez raison de rappeler...
Il faut un contrôle de la police.
C'est de plus en plus réglementé, hein. D'ailleurs, maintenant, même pour avoir des chiens, je pense que des réflexions sont, d'un point de vue, en tout cas, quand on remonte, je ne sais plus lequel de tête, mais de se dire, pour avoir un chien, il va falloir obligatoirement passer par une formation et puis avoir aussi certaines conditions pour éviter de se retrouver dans peut-être des dérives que vous avez parlé.
Alors ma fille, elle a 5 formations. Elle va avec les flics chercher les chiens. Mais par contre, pour ses 2 chiens, ils lui ont envoyé une convocation à 180 balles de cours pour venir faire du dressage.
Oui, oui.
Et son bull staff, elle a dû faire une recherche ADN. Si ça dépasse les 30% de bull staff, elle n'a pas le droit de le garder. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Je déménage.
Ah bah ouais, ça je peux comprendre qu'on s'adapte en fonction de l'environnement. Léonard Assillard, je crois que vous avez aussi levé la main tout à l'heure quand on a fait un petit peu notre Landsgemeinde de qui avait des animaux. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec déjà tout ce qui a été dit, Sillard?
Alors moi j'ai juste un chat. Malheureusement, moi je suis une personne, je connais pas trop l'amour. L'amour j'ai pas reçu. Donc envers les chats, je peux pas savoir ce que les chats ils ressentent. Mais là, ça fait pas longtemps, j'ai appris c'est quoi l'amour. J'ai le cœur plus ouvert. Et du coup, si j'ai l'opportunité, je vais adopter un chat et je vais te donner l'amour, tout ce que l'amour, j'ai pas reçu.
Mais, merci. Alors d'ailleurs, vous nous avez proposé tout à l'heure, j'espère qu'on aura le temps d'aborder le thème sur l'amour, ça nous permettra de faire le lien. On va faire une petite pause musicale, hein. Après, quand on parle d'animaux, on a parlé d'animaux champêtres, on a parlé d'animaux de domestiques, on a parlé de cochons, bah, finalement, ça représente tout ce qui se passe un petit peu dans la nature. On vous propose de se quitter un court instant après la chanson de TFN, La fille du coupeur de joint.
J'avais un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Cinq chômeurs à se lamenter sur notre malheur, en se disant qu'on se taperait bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne, là qu'elle nous voit vers les murailles, et qu'elle nous fait coucou les gens, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille, elle nous fait le coup du zeppelin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ah ben nous on était cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin de soin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Passer la ferraille, elle nous fit fumer de sa paille. Sacré bon Dieu, que c'était bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Plus question de chercher du travail. Pédaler dans les nuages au milieu du lapin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, 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 la fille du coupeur de joint.
De retour sur les ondes de Pavillon Nomade, j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, Pavillon Nomade vous accompagne jusqu'à 16h30. Léonard, il est en face de moi. Oui, bonjour bon. Léonard.
Bonjour.
Vous nous avez proposé aujourd'hui de faire un petit détour parmi les contes de fées. Mmh. D'où vous vient cette vous êtes vous-même, est-ce que vous êtes vous-même écrivain de contes déjà?
Non, malheureusement. Mais j'adore regarder des contes de fées. Elles ont des significations, une histoire intéressante aussi. Et puis, ouais, c'est ça.
Si vous deviez vous remémorer d'un conte de fées qui vous a touché, parlé, ce serait lequel et pourquoi?
Alors, j'ai plein de contes de fées en tête, mais... franchement, je sais pas trop. Peut-être. Les trois petits cochons, c'est aussi intéressant.
Oui, alors je sais pas si c'est un conte de fées, les trois petits cochons, mais c'est un conte, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que les faves de La Fontaine sont des contes? Je sais pas, j'ouvre le débat. Qui connaît qui est déjà un conte de fées qui l'a marqué dans son enfance? Parce que c'est vrai, quand on parle de conte de fées, moi je trouve très touchant que Léonard, on dit bah, moi aujourd'hui encore, j'aime les contes de fées, parce que c'est vrai qu'au départ, on renvoie ça plutôt à une sphère plutôt de l'enfance. Et en fait, non, il n'y a pas de moment pour apprécier les contes de fées ou même des jeux de société qu'on pourrait dire un peu enfantins, non? Mélodie.
Oui, moi, ce qui m'a marqué, c'est la Belle au bois dormant, Aurore, justement, avec les trois bonnes fées ou marraines, plutôt. Et puis que, justement, il y avait Maléfique, mais Maléfique, dans le fond, elle n'est pas si méchante que ça, mais elle veut empêcher le prince charmant que, justement, il vienne la récupérer, en fait. Tout simplement, on veut vivre 100 ans, dormir 100 ans... Voilà quoi.
Alors c'est vrai, souvent les contes de fées sont parfois appelés contes de fées, mais c'est à la base des contes merveilleux. Hein. On pourrait dire que c'est un sous-genre de contes. Dans ce type de littérature interviennent des éléments surnaturels ou féeriques, des opérations magiques, des événements miraculeux propres à enchanter le lecteur ou l'auditeur dans le cadre d'une séance de contes généralement empruntée au folklore. Donc on pourrait dire aussi, c'est vrai que les contes, ça pourrait être un peu ce qu'étaient les troubadours au début. Et, alors Sabrina, ça l'a lancé. Sabrina, je vous laisse reprendre la main, allez-y.
Alors pour la petite histoire, les contes, en fait, c'est l'une des formes d'art les plus anciennes au monde. Parce qu'il y avait toujours une personne qui venait sur la place du village, etc., pour avoir quelques sous. Conter des histoires aux gens. Donc oui, nous, on pense que c'est surtout pour les enfants, mais avant, c'était ouvert à tout public. Et ça a dévié sur les films, les marionnettes et plein d'autres choses comme ça.
Oui, et peut-être même c'était l'ancêtre des bibliothèques, hein. C'était des bibliothèques vivantes, parce qu'avant les écrits, on pense souvent que le monde a commencé avec les premiers écrits, mais il y a un monde avant les écrits, avant que le papier fasse foi sur ce qui est écrit, les gens échangeaient, alors dans la communication, peut-être même par la métacommunication ou d'autres peut-être perceptions sensorielles, mais on racontait le passé des autres, pour garder en souvenir, pour pas oublier, on comptait les grandes batailles des grands chevaliers, on racontait les histoires du sorcier, et c'était pour moi, je pense, peut-être, c'est une hypothèse, les premières bibliothèques ambulantes. Christine.
Justement, pour avoir été en Afrique et avoir entendu des griots, la première phrase qui m'a impressionnée, c'est que les Africains disent que quand un griot meurt, une bibliothèque brûle.
Exactement. J'allais chercher la citation, vous avez été plus rapide que moi, bravo.
La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je trouve que c'est une extrêmement mauvaise éducation aux filles, les contes de fées. Parce qu'après, elles passent leur vie à chercher le prince charmant et ça n'existe pas.
Alors, je vois qu'il y a des réactions. Alors, moi, j'aimerais qu'on puisse échanger avec ces réactions. Mélodie et après Sabrina. Allez-y, Mélodie, on vous écoute.
Oui, parce que le crapaud, il ne faut pas rêver, quoi. En fait, voilà, tout simplement. En fait. Si on embrasse un crapaud, on risque de tomber malade, quoi.
Alors, je vous invite à ne pas aller embrasser un crapaud. Effectivement, ça ne marche pas, Sabrina.
Alors, moi, je ne suis pas d'accord parce que je trouve que les contes ouvrent à l'imaginaire. Donc, que ce soit pour nous, pour les enfants, voilà, ça peut amener à penser à beaucoup de choses qui peuvent être positives. Moi, je pense par exemple à Jacques et le haricot. Moi, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Et ou sinon, les contes des mille et une nuits. C'était vraiment... Et en plus, il y a eu une adaptation en vidéo. Donc, je trouve qu'il y a assez de contes pour avoir plusieurs histoires et plusieurs choses positives.
Ouais, et je suis assez d'accord avec vous parce que pendant quelques années, j'ai travaillé au CCPP de Martigny et on avait un groupe conte. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des participants de l'unité thérapeutique de jour. Hein, et puis, on choisissait des contes et en fonction des contes qu'on choisissait, il y avait toujours une thématique qui en sortait. Et l'idée, c'était aussi de donner la possibilité aux gens, à travers peut-être le ressenti du conte, de pouvoir se positionner, échanger et des fois même faire des parallèle avec leur instant de vie maintenant. Et des fois, ça permettait un petit peu de comprendre les choses autrement. Donc, je pense que le conte peut, comme tout, hein, finalement, c'est pas l'objet, mais la relation qu'on a à l'objet et qu'on en fait de l'objet. On parlait tout à l'heure en off de la télé ou des jeux. Je pense qu'un conte, si suivant sur quel regard on le voit, on peut induire ou pas de bonnes ou de mauvaises, peut-être, émotions, sensations. Christine, vous aviez envie de reprendre la parole, on vous
écoute. Oui, moi, un conte que j'ai beaucoup apprécié, c'est Shrek. Ah, bah oui. Parce que là, il passe du prince charmant au dragon méchant avec ses oreilles vertes, etc. Et par amour, elle devient la même chose. Pour finir, ils sont beaux tous les deux. Et là, c'est sur la différence.
Oui, c'est vrai, on a la belle et la bête aussi.
Moi, j'ai eu des enfants avec un arabe, comme on appelle ici. En fait, c'est un berbère, il n'est pas arabe du tout. Et puis, mes enfants à Genève étaient arabes. Et quand ils sont arrivés en Suisse, quand ils sont arrivés en Valais, c'était des rebeux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas acceptés du tout. Et puis, ça veut dire quand il y a des histoires d'amour entre des gens différents, il faut vivre dans un pays tiers. Ni dans le leur, ni dans le mien, parce que ce n'est pas possible.
Alors ça, c'est tout est
relatif. Au Brésil, tout le monde est mixé, donc il n'y a pas de racisme.
Alors je pense que le racisme, il y en a partout, mais il commence quand on a une incompréhension, une non-capacité à vouloir rencontrer l'autre, ou des fois même quand on ne sait pas, quand on a peu d'échanges
de connaissances, la peur. Mais je me suis convertie et toute ma famille m'est tombée dessus. C'est des catholiques fervents. Et puis pour avoir mes trois chats, oui, je me suis convertie.
Alors, ça m'intéresse. Si vous deviez écrire un conte de votre vie, de votre histoire-là, vous le nommeriez comment, ce conte ?
Les tribulations d'une bipolaire dans le monde.
Eh ben, vous savez quoi ? Moi, ça me parle.
Eh ben, il est en route, le livre.
Eh ben, je vous invite à le continuer.
J'ai un étudiant du foyer où je suis qui m'a pris comme thème de son travail de diplôme pour les troubles bipolaires et ma vie en parallèle. Et puis Catherine Barras, qui était ici, qui faisait un atelier, qui m'a appelé des Beaux-Arts de Marseille pour me dire qu'elle cherche un cas, parce que cette année, ils ont décidé aux Beaux-Arts qu'ils allaient faire de la psychologie avec des artistes.
Ah bah, on souhaite...
Donc, avec les deux parties, je vais faire un bouquin.
Ah bah, on aura peut-être...
Et je le mettrai dans toutes les boîtes à livres de Suisse.
On aura peut-être l'occasion de vous accueillir, Christiane, pour en parler. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que je vous ai dit, si vous étiez un conte, et pour les autres, si vous étiez un conte, lequel ce serait et pourquoi ? Alors, qui se prête au jeu ? Mélodie, si vous étiez un conte, ce serait lequel et pourquoi ?
Bah, moi, c'est aussi La Belle et la Bête, parce que j'ai connu des hommes impulsifs. Et puis, en fait, le prince, il est quand même un peu impulsif, il est mal poli. Mais après, c'est aussi parce qu'il n'a pas rencontré la bonne personne. Et puis, en fait, quand il rencontre Belle, il se rend compte qu'en fait, il devient quelqu'un de bien avec elle, en fait. Et puis, justement, ce conte, il me fait pleurer à la fin, parce qu'il se fait poignarder par Gaston. Et c'est encore des passages qui me font encore envie de pleurer, parce que ça me fait mal au cœur, en fait.
Ben oui, je comprends.
Donc, je suis un peu ému, excusez-moi.
Mais il n'y a pas de souci, Mélodie. Merci de
votre témoignage. Je retiens mes larmes, mais voilà, c'est juste que je trouve ça très beau comme conte. À la dernière seconde, quand elle dit « je t'aime » avant que le pétale tombe, ben voilà, c'est magnifique. Après, par contre, dans les contes, ils ne disent pas tous la réalité. Par exemple, pour les enfants, ils font les choses un peu plus jolies. Mais les vrais contes, ça se termine mal. Pour Carantas, par exemple, ça ne se termine pas comme ça.
Alors, est-ce que les contes sont pour dire la vérité ou pour faire réfléchir et permettre aux gens de se redéfinir finalement sur ce que ça leur permet d'évoquer, de travailler en termes de réflexion, de pensée ? Allez savoir. Si vous étiez un conte, Nathan ?
Je trouve la question super dure. Oui. Enfin, je réfléchis depuis avant, mais je ne trouve vraiment pas. Après, moi, j'ai un conte qui m'a marqué. Enfin, je suis né dans les années 2000, du coup, c'est plus des dessins animés qui m'ont marqué, mais un vieux dessin animé, moi, c'est Dumbo, que je regardais beaucoup quand j'étais petit. Dumbo, je l'ai revu il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, et puis j'ai pleuré de nouveau dans ce dessin animé, puis j'avais oublié à quel point si Disney était beau, en fait, puis incroyable, marqué dans la différence, j'ai trouvé ce dessin animé vraiment beau. Où c'est que ça réfléchit aussi plus loin que juste pour les enfants, en fait.
C'est vrai. Alors, Mélodie, vous disiez, ils l'ont fait avec des vrais acteurs, c'est ça ? Ouais, je pense qu'ils ont fait des parodies, ils ont fait toutes des versions différentes. Et qui veut s'essayer encore à la question, si vous étiez un conte, ce serait lequel et pourquoi ? Annika, on vous écoute.
La Belle au bois dormant, parce que je suis restée endormie très longtemps dans ma vie, en fait.
Et vous attendez aussi le prince charmant qui vient de vous réveiller ?
J'en ai trouvé un.
Ah,
donc, la totale.
Eh bah, on se permet de le saluer. D'ailleurs, on va peut-être lui dédicacer une chanson qui viendra tout de suite après, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce deuxième thème. Moi, j'ai envie aussi de me prêter à ce jeu-là. Si j'avais été un conte, je pense que j'aurais été les bottes de sept lieues. Parce que au-delà de l'histoire du conte qui est dedans, c'est juste que le nom Et il m'a toujours évoqué cette capacité, cette liberté de se dire je me mets en action, je vais visiter, je vais voir. Et ma vie a été comme ça pendant très longtemps. Donc si je devais être un conte, ce serait les bottes de ces lieux, au-delà de ce que réellement ça parle. C'est plus par rapport au titre. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un petit instant sur les ondes de Pavillon Nomade, après une chanson qu'on va dédier à votre prince charmant, Annika, parce que je pense que c'est une chanson qui a... je sais que tous ceux qui nous écoutent, parents, vous allez me détester, mais c'est en lien aussi avec le thème qui suit. Hein, je vous avais dit en préambule qu'on allait parler de la neige, donc je pense que certains sont déjà en train de se dire « Oh non, je vais baisser le son, parce que moi, Anaïs Delvaux, est-ce que ça vous met sur la piste, Anaïs Delvaux ?» Si je vous dis « Libéré, délivré », à tout à l'heure. Alors j'espère que vous m'en avez pas trop voulu, parce que je pense que cette chanson va traîner dans votre tête au moins jusqu'à, j'espère, Noël. Non, je vous taquine. On est en direct, il est exactement 16h03 au studio du Pavillon Nomade, votre espace mobile, chaleureux, un peu hors du temps où on explore les liens entre la nature, les émotions et la santé mentale. Je vous propose de faire escale sur un phénomène aussi simple que magique, vu qu'on était tout à l'heure sur les contes, on a parlé de magie, de féerie, même si on ne peut pas toucher les flocons à la radio, on peut pas les faire danser avec nos mots, nos rires et nos souvenirs, mais rassurez-vous, personne ne va finir congelé. La neige a quelque chose d'unique. Quand elle tombe, tout semble ralentir, les sons se posent, les pas se font plus doux, et même nos pensées paraissent amorties, enveloppées, comme si le monde appuyait sur pause juste pour nous laisser respirer. D'ailleurs, c'est quoi la neige ? Qui sait ? Alors là, je vous pose une question qui est un peu technique. Alors moi, j'ai triché, bien sûr, je suis allé chercher la réponse. Mais est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la neige ? C'est quoi la neige ?
Alors,
Christine ?
Pour moi, la neige, comme j'ai 63 ans, c'était 3 mètres de neige à Montana pendant l'hiver. Donc on faisait des tunnels et on allait dans des sacs à poubelle de 110 litres faire des descentes incroyables. Et c'était des flocons tous différents les uns des autres. Et il y a un professeur Ono au Japon qui a fait des expériences avec les flocons de neige en mettant des musiques différentes. Et il obtient des dessins différents en fonction des musiques. Vous mettez du hard rock, ça devient des flocons de neige complètement dégueulasses, moches. Et quand il met des musiques traditionnelles ou des musiques classiques, ça fait des flocons de neige extraordinaires. Donc ça veut dire que les flocons de neige, ils représentent aussi une capacité de prendre des choses, des sentiments et des musiques, et de se transformer.
Vous avez raison. D'ailleurs, on reviendra à ma question initiale, parce que là, vous avez quand même ouvert un chapitre qui est quand même intéressant. Les souvenirs d'enfance les plus marquants avec la neige. Alors vous, c'était 3 mètres de neige. Quels sont vos souvenirs marquants d'enfants avec la neige ? Alors, je ne sais pas qui a envie de Nathan, alors.
Moi, je me souviens, je viens du Jura. J'habite à 1000 mètres. Du coup, on avait la neige à peu près à cette période-là de l'année. Puis on allait toujours faire du bob avec mes parents. Puis je me souviens que j'avais une combinaison uniforme et que... Mes parents me montaient toujours la... Comment on dit la... La fermeture éclair, mais toujours trop haut, puis ça me piquait le cou, quelque chose comme ça.
La fameuse combinaison unique.
Oui, la
unique,
combinaison, une pièce. Moi, j'ai le souvenir là, directement, avec la neige, quand j'étais petit. Voilà.
Alors, qui a envie de partager un autre souvenir avec Mélodie ? Prenez seulement le micro.
Oui, moi, j'aime bien aller à Les Ains, parce qu'il y a le restaurant tournant, là-bas. Et puis, c'est magnifique, parce qu'en été, ils font la marche à pied, ils font les randonnées. Puis en hiver, il y a la luge d'été. Il y a la luge d'hiver. Donc ça, c'est sympa, quoi. Et il y a le ski aussi. Bon, moi, le ski, c'est pas conseillé avec ce que j'ai comme maladie. Mais après, je fais du ski débutant, quoi.
Ouais. En fait. Alors là, vous nous avez dit un petit peu ce qui pouvait se faire aujourd'hui. D'ailleurs, on en parlera aussi tout à l'heure dans les questions. Mais à cette question qui est les souvenirs d'enfance de la neige. Si vous deviez vous souvenir d'un moment dans votre enfance dans la neige, ce serait lequel ?
Ben c'est quand j'ai fait rouler-bouler.
C'est-à-dire un rouler-bouler. Vous êtes transformé en boule de neige.
Oui, exactement. Non, mais je n'ai pas été retrouvé par les Saint-Bernard. C'est bon. Hein.
Ouais.
Ils ne m'ont pas donné du kirsch ou bien du vin à boire. C'est bon.
C'est vrai, parce que tout à l'heure, on parlait des animaux et on a parlé de Saint-Bernard avec Christine aussi. Et en faisant le lien avec la neige, c'est vrai que pendant très longtemps, les sauveteurs en avalanche, en tout cas dans le Valais, on avait les chanoines qui étaient au Grand Saint-Bernard. Et puis, ils allaient avec les... Alors, ça m'a toujours étonné parce que c'est des gros chiens. Mm-hmm. Mais n'empêche qu'ils étaient utilisés pour aller chercher les chiens. D'ailleurs, il y a la fondation Barry, qui est une fondation pour les animaux et les Saint-Bernard, et qui a certainement donné le nom à une des marques comme Ortovox, qui s'appelle Barryvox, qui est aujourd'hui le mécanisme pour aller rechercher les gens dans la neige de manière technique. On appelle ça Barryvox en lien. Je crois que si mes souvenirs et mes sources sont bonnes, c'est ça. Donc vous, c'était quand vous rouliez dans la neige.
Oui, mais en fait, il y avait très peu de neige. Il y avait vraiment, il y avait 50 cm de neige, donc ça allait. J'ai un peu peur, mais...
Rouler, tomber dans à peine 50 cm de neige, je pense que vous alliez tout de suite tomber sur le bitume.
Ouais, j'ai eu la crève après. Hein.
Ouais, donc, j'imagine.
Oui. Donc, voilà.
Christine.
Moi, j'ai encore un souvenir parce que j'avais 6 ans quand il y a eu les plus grosses chutes de neige à Montana. Et quand ma mère était concierge, nous, on avait de l'argent de poche que quand on bossait. Donc, c'est moi qui passais la fraiseuse. Et j'avais comme habitude de tout mettre sur la route pour la commune.
Il y avait déjà une fraiseuse à ce temps-là.
Il y avait des fraiseuses à main, oui.
Je vous taquine, Christine. Des et fraiseuses à main, ça s'appelait... En fait, la fraiseuse à main, c'était l'appel. Vous y alliez avec l'appel.
Je débarrassais le parking de l'immeuble et je mettais tout sur la route pour la commune.
Ah, ça, c'est des bons souvenirs. Sabrina.
Alors, pour ma part, moi, je viens d'une région où il pleut beaucoup plus qu'il neige.
C'est-à-dire la région
le nord de la France.
Ah, une Schnorr avec nous
oui,
aujourd'hui.
Oui, donc je salue tous les collègues qui viennent du nord, parce qu'on est plusieurs. Et moi, je me rappelle que plus jeune, on attendait la neige vraiment avec impatience, parce que bah, pour nous, c'était très féerique. Et c'était le moment pour dans le jardin de faire les petits bonhommes de neige avec la carotte et de faire des boules de neige et faire des petites batailles. Par contre, moi, aujourd'hui, ça s'est transformé en cauchemar. Ce matin, j'ai patiné. Donc, je salue Najib qui est venu à ma rescousse. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait du stop. Donc, c'était une mauvaise et une bonne expérience. Donc, ouais. Voilà, la neige, c'est aussi un peu dangereux. Donc, il faut faire attention.
Ouais, d'ailleurs, on en parlera enfin. Je ferai un petit topo, comment on pourrait dire, bienveillant sur finalement les messages les préventifs. En off, vous m'avez parlé tout à l'heure que vous, la neige, ça vous avez aussi renvoyé au goûter. Mais est-ce que vous arrivez à nous dire un petit peu plus le lien entre neige et goûter que vous avez fait ?
Ah oui, alors nous, dès qu'il neige, on a dans notre famille une petite tradition, c'est de faire les goûters d'hiver. Donc c'est des goûters où il y a chocolat chaud, la petite flamme cheminée, marshmallow et tout ce qui est assez réconfortant. Donc voilà, c'est notre petite tradition.
Bah ça c'est bien, d'ailleurs ça me fait poser la question, y a-t-il des activités que vous préférez faire le plus souvent dans la neige? Ce seraient lesquelles, Christine?
Bah moi je suis née avec les skis aux pieds, et puis à 18 ans j'ai eu un accident de genou, de ligament, et comme j'étais avec des Anglais qui étaient venus pour skier avec moi, j'ai continué à skier tout l'après-midi, donc mon genou il était foutu, j'ai plus pu skier, et je me suis mis à la raquette, et c'est extraordinaire parce que tout le monde peut faire de la raquette.
C'est vrai.
Il n'y a pas besoin de s'entraîner, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. On peut faire de la moyenne montagne, on peut faire de la haute montagne. Et donc, je continue la raquette avec mon genou. J'ai dû arrêter le patinage artistique aussi à cause du genou. Mais mes expériences de ski, c'était monter à 7h du matin avec le premier téléphérique à la Plaine Morte à Montana et faire descendre les avalanches.
Ah bah ça, c'est de bons souvenirs. Mélodie, à part aimer rouler dans la neige de 50 cm et tomber, quelles autres activités vous aimez faire quand il y a de la neige?
En fait, j'avais essayé de faire du ski, mais c'est trop grand. En fait, les skis, en fait, c'est du 41 alors que je fais du 36, en 36 et 38. Donc c'était toujours trop grand, du coup bah, je tombais tout le temps en fait en diagonale et tout ça, et je me suis tordu la cheville plusieurs fois quoi. C'est ça qui arrivait quoi, souvent, même avec les chaussures de ski. Le mieux c'est les bâtons de marche avec les raquettes comme madame vient de dire en fait.
Ouais. Mais là, vous avez raison, je pense qu'il faut du matériel adapté hein, quand on commence à faire du ski, du surf ou quoi que ce soit.
Déjà,
il faut bien l'adapter, sinon ça peut être dangereux. Hein.
Les bâtons de marche, même juste pour faire les montées, c'est pas mal.
Oui, c'est vrai. On appelle ça d'ailleurs, vu qu'on est dans la neige, comment on appelle ça, la marche avec les bâtons?
Nordic
walking. D'ailleurs, de rappeler que le Nordic walking est une activité qui est proposée par nos collaborateurs MTT, c'est-à-dire les ergos, les physios et les psychomotriciens. Je crois que c'est dans la semaine. Je ne sais pas si quelqu'un a le souvenir d'un, mais je sais qu'il y a un jour dans la semaine. De toute manière, vous pouvez trouver les infos dans les pavillons, sur les murs. Ils ont une activité qui s'appelle Nordic walking. Pour Léonard et Sillard, vous, quand on évoque activité en lien avec la neige, c'est laquelle qui vous vient en premier?
L'activité...
Sillard, merci.
Sillard, désolé. Alors l'activité, je ne connais pas trop, mais si je parle de la neige, pour moi la neige, ça présente un genre de paix. Parce que moi, je suis né dans un environnement où la paix, la liberté, c'est un peu compliqué, quoi. Pour ma part, moi, depuis que je suis enfant, j'ai eu des épreuves que j'ai réussi à surmonter. Et à chaque fois, quand ça neigeait, quand je regardais le décor, ça en présentait la paix. Merci.
Bah, merci de votre témoignage. Léonard.
Moi, quand ça parle de la neige avec le sport, ça me fait parler du ski.
Oui.
Mais moi, je ne suis pas très fort en ski. Alors, je suis plutôt débutant. Et puis, chaque année, je fais au moins une fois le ski. Et puis, ouais, je prends toujours débutant parce que je suis pas trop fort.
Mais avec les années, à force d'essayer, de pratiquer, vous allez passer de débutant à moyen débutant, après à expert, après peut-être élite, on ne sait jamais. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, parce que la Suisse a quand même un vivier de sommités, de grands skieurs. Hein. Dans la région, d'ailleurs, on a Didier Desfagots, alors ça c'est pour les anciens, hein, mais on a Lara Goute, je crois, si mes souvenirs sont bons actuels, qui continue, est-ce qu'elle est à la retraite? Je ne sais pas, il faudrait voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la neige, ce n'est pas que synonyme que de bien bien-être et de bons moments. Ça peut être aussi un moment où les gens peuvent se retrouver isolés. On parle peut-être de nos personnes âgées, nos aînés. Ça peut être aussi les gens qui ont un handicap. Ça peut être aussi les gens qui habitent dans des hameaux et qui, sous un mètre de neige, ont plus de peine à pouvoir se mobiliser. Ma question, c'est finalement, quels petits gestes peuvent aider à rester en contact avec les autres pendant des journées froides ou enneigées ou isolées ? Qui a envie de... Alors, on vous écoute, Annika, prenez seulement le micro.
Ben, par exemple, pour les personnes en handicap visuel, ça peut être... la neige peut être complètement déroutante. Donc, ça va être de prendre un peu plus soin de ces personnes quand on est dans la circulation, que ce soit en tant que véhicule ou en tant que personne qui marche, parce qu'elles sont déboussolées, en fait.
Il y a le ski à deux.
Alors, Christine, prenez seulement le micro.
Il y a le ski à deux pour les aveugles.
Oui, c'est vrai, il y a le ski à deux.
Et moi, j'ai un fils qui aime l'adrénaline. Avec ses copains de Genève, ils payent 500 balles chacun pour une journée. Ils prennent un hélicoptère, ils se font larguer dans la montagne avec leur snowboard. Et ils se font plaisir.
Ah, ils se font plaisir, c'est du ski héliport et tout. Alors, là aussi, hein, on a les pour et pour les contre. Hein. Est-ce qu'on a les aficionados de la nature et qui vont prendre leur pot de phoque et puis monter après 2, 3, 4 heures d'effort pour arriver au sommet et se faire cette trace, ou un hélicoptère et tout ce que ça incombe en termes de coût, en termes d'impact, on pourrait dire carbone, comme il est souvent utilisé dans nos médias aujourd'hui. Bon, l'important, c'est de se faire plaisir et puis d'assumer nos choix. En tout cas, message préventif, la neige et la route. Quand la neige recouvre les routes, la prudence devient notre meilleur allié. Pour tous ceux qui n'ont pas encore pensé à faire leur changement de pneus, n'est-ce pas Sabrina, qui glisse et de devoir éviter à se retrouver à appeler le frère, le tonton, le cousin, la tata, à venir nous aider ou voire même le garagiste, pensez à le faire rapidement. Ils annoncent de la neige encore ces prochains jours. Ralentissez, la route glisse, même si elle semble dégagée. Il y a toujours cette petite fine pellicule qui est là. Donc, s'il vous plaît, essayez de pas trop garder vos distances, laissez le plus d'espace entre les véhicules. On a parlé de pneus adaptés. N'oubliez pas qu'il faut des chaînes aussi. À certains cols, certains endroits, on a l'obligation d'avoir des chaînes dans la voiture. Roulez tous les jours avec les phares allumés, hein, la luminosité baisse. Restez concentrés, évitez les distractions et anticipez chaque manœuvre. Et surtout, souvenez-vous, vaut mieux arriver en retard que de ne pas arriver du tout. La neige peut être belle, mais elle exige un grand respect. On se quitte un petit moment après une chanson d'actualité de neige et de préfète de Jingle Bells de Bobby Helm. De retour sur les ondes de Pamillon Nomade après cette petite escapade de neige et de prévention naturelle. Alors, on a quelques personnes qui sont parties, mais qui vont revenir. Hein, je pense que d'ici quelques secondes. Ça me permet quand même de remercier déjà Julien Morand pour, qui est à la technique aujourd'hui. Merci Julien de nous permettre d'avoir ce son, d'avoir ces enchaînements, de remercier toute l'équipe de Pavillon Nomade. Hein. Aujourd'hui, on a un grand collectif. On a une capacité à monter en puissance. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, vous retrouverez toutes nos émissions qui ont lieu tous les jeudis de 15h30 à 16h30 sur le site de pavillonnomade.ch. Vous allez aussi retrouver les podcasts en lien avec la mémoire, on pourrait dire d'une certaine manière, de l'hôpital avec les fameux rapports au pont. On a aussi les rencontres de Marie-Claude, là aussi où Marie-Claude est allée à la rencontre de personnes qui ont travaillé ici. Il y a des témoignages très touchants et puis vous retrouverez un petit peu toutes nos émissions spéciales qui ont eu lieu, que ce soit à certains moments dans les marchés. Je me souviens aussi, on avait fait une émission à la Migros M Centrale, on est allé dans différentes institutions, que ce soit en France, que ce soit dans les différents cantons autour de nous, Vaud, Genève. En tout cas, c'est un grand plaisir et je remercie vraiment toutes ces personnes qui sont autour de ce fabuleux projet qui nous permettent d'être là aujourd'hui encore et j'espère avec encore différents projets qui sont en construction. En tout cas, merci à vous toute la team. Je suis très content qu'on soit tous sur ce bateau-là. Donc, je ne vais pas commencer à citer tout le monde parce que si j'en oublie un, avec ma mémoire de linotte, je vais m'en vouloir toute l'après-midi. Mais vous pouvez retrouver sur le site toutes les informations et de voir un petit peu ce qui se fait et l'équipe. On était parti sur ce dernier thème pour discuter sur l'amour. Alors, l'amour, on avait Ciliard qui va gentiment arriver. On lui donnera la parole quand il arrivera. On va avancer quand même. Quand on parle de l'amour, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Qui souhaite prendre et se jeter dans les flots de l'amour. Et qu'est-ce que ça évoque chez vous, Christine, l'amour?
Ben moi, j'ai acheté un tableau une fois dans une exposition et c'était la même personne, mais en deux. Ça veut dire en blanc et en bleu. Et ça représentait le masculin et le féminin de chaque personne. Et je pense que l'amour, c'est quand on peut d'abord avoir de l'harmonie avec son personnage féminin et son personnage masculin. Et ensuite, les coupler avec un autre personnage masculin et féminin.
Alors, en deux mots, vous dites finalement, l'amour, c'est s'accepter comme on est, finalement.
D'abord, s'aimer soi-même.
S'aimer soi-même. Ciliard, bonjour Ciliard, bienvenue. Vous êtes de retour autour de la table, on va vous donner un micro. Ciliard, vous nous avez proposé, alors on a déjà un petit peu commencé, mais en préambule, de parler finalement de ce qu'évoquait l'amour pour nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous nous proposez ce dernier thème à Pavillon Nomade?
Alors, j'ai choisi ce thème parce que c'est un thème que, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un monde où ce thème, on ne prend pas au sérieux. On prend ça comme une faiblesse. L'amour, ce n'est pas forcément entre un homme et une femme. L'amour, c'est quand tu donnes à tes enfants, que tu reçois et tout. Moi, j'étais un enfant où je ne recevais pas beaucoup d'amour. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'avais un cœur. Enfin, j'avais pas de cœur. J'étais tout le temps sur les nerfs. Je m'énervais avec tout le monde. J'ai eu plein d'épreuves dans ma vie que j'aurais plus légère, mais vu que je connaissais pas l'amour. Du coup, j'étais tout le temps sur les nerfs, j'arrivais pas à parler. Si à ce moment-là, je connaissais l'amour, j'aurais pu se les parler plus calmement, plus gentiment. Voilà, c'est ça l'amour.
Je pense que, merci de votre témoignage déjà. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous a permis de pouvoir arriver à cette conclusion et surtout à se redéfinir hein, parce que vous avez dit finalement, moi, j'avais pas d'amour. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Vous nous avez bien expliqué un petit peu l'impact que ça avait eu sur vous. Qu'est-ce qui vous a permis aujourd'hui finalement de pouvoir être libre d'en parler et de connaître et d'en être là?
En fait, chaque humain, il a des apprentissages. Il y a des gens, ils ne contrôlent pas ses émotions. Il y a des personnes, ils ne connaissent pas l'amour. Du coup, leur cerveau, ils vont leur faire mal. Et il faut connaître cette vérité. Vu que moi, je me suis construit tout seul, j'ai appris à contrôler mes émotions, l'amour et tout. Au moment où j'ai compris que mon cerveau, il m'a envoyé un signe comme quand il me disait que tu ne connais pas l'amour, c'est là où j'ai compris que je ne connaissais pas l'amour, et là où ça m'a ouvert le cœur. Et du coup, c'est là où j'ai décomposé, quoi. Oui.
Mais comment vous avez réussi à retrouver l'amour, finalement ? Parce que c'est vrai ce que vous dites. Quand on n'a pas eu le modèle, quand on n'a pas eu l'exemple, quand finalement, on s'est construit sans savoir ce qu'était l'amour, c'est pas quelque chose d'inné, hein. On parle d'amour maternel, fraternel, comme vous l'avez bien signalé. Mais qu'est-ce qui vous a permis, vous, d'être sur le chemin d'apprendre l'amour ? Est-ce que vous avez, ben, je sais pas, des rencontres ? Peut-être c'est des échanges, des lectures, hein. Ça peut être aussi à travers un film, une lecture. Qu'est-ce qui vous a permis aujourd'hui de pouvoir vous dire aujourd'hui, bah, je suis moins carencé sur finalement ce qu'était l'amour et le sentiment de ne pas l'avoir vécu et de ne pas arriver à savoir comment le donner. Qu'est-ce qui vous a permis aujourd'hui d'être à cette étape-là où vous pouvez vous positionner et dire aujourd'hui, bah, je sais ce qu'est l'amour et je sais aussi comment la partager et la donner.
C'est la religion.
C'est-à-dire ?
En fait, moi, je suis musulman. Depuis tout petit, j'ai toujours été proche de la religion, mais j'arrive pas à m'accrocher parce que voilà, il y a eu plein de problèmes et tout. Et du coup, petit à petit, vu que j'ai réussi à me contrôler émotionnellement, et puis je suis arrivé à un moment où fallait que je découvre la vérité. Je suis allé regarder la religion. Je regardais que le plus important c'était l'amour, et c'est ça qui m'a permis de trouver l'amour.
Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec vous et je vous remercie en tout cas d'avoir pu témoigner. Généralement, quand on parle souvent, on dit oui, mais les religions, ça crée plus de soucis, on parle des guerres de religion. Non, non, une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, c'est la relation qu'on en fait, la lecture qu'on en fait. Mais d'exemple, en tout cas, quand je discute avec différentes personnes de différentes religions, il y a une chose de commun qu'il y a dans ça, c'est apprendre à respecter l'autre, apprendre à aimer l'autre, apprendre à reconnaître l'autre. Et ça, si c'est pas des bases fondamentales pour l'amour et la bienveillance entre nous, je ne sais pas ce que c'est. Donc oui, je suis content que bah, ça ait été pour vous bah, les premiers pas et ce qui vous a permis de pouvoir bah, se reconnecter à ce sentiment de l'amour. Christine.
Moi, j'ai eu deux périodes différentes dans mon enfance. C'était l'amour de ma mère jusqu'à 6 ans. Et à 6 ans, à 3 heures du matin, j'ai perdu mon père. Et le lundi matin, ma mère s'est transformée en général en chef. Il fallait que ça tourne à la maison. Et à 40 ans, j'ai pleuré et je lui ai demandé si je pouvais m'asseoir sur ses genoux. Et c'est là qu'on a pu renouer.
Bah, je trouve que c'est aussi une belle preuve de vie. Hein. L'amour, ça part, ça vient, puis des fois, ça se construit. Hein. Finalement, l'amour, c'est une relation qui se construit. Et des fois, bah, on n'a pas les mots, on n'est pas dans le bon moment pour être dans cette rencontre-là. Mais c'est plutôt un grand message d'espoir que vous nous dites, Christine, c'est que malgré les événements du passé, les situations qu'on a eues, bah, on peut, 40 ans après, bah, retrouver un lien amical, un lien amoureux avec ses proches, parce qu'à un moment, on va à la rencontre de l'autre. On se met dans un instant, on va à la rencontre de l'autre. Et puis, à la rencontre de l'autre, c'est écouter les besoins et aussi mettre ses limites. Peut-être que l'amour, c'est déjà, ça commence par écouter l'autre, mais aussi par mettre ses propres limites. Mélodie.
Oui, moi, je voulais dire, moi, j'ai un parcours un peu compliqué parce que je suis née en Inde, à Calcutta. Et puis, on ne sait rien sur les vrais parents. Par contre, j'ai un numéro, le 404, sur 2000 enfants. Et puis, moi, j'ai une hydrocéphalie congénitale. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le liquide céphalo-rachidien qui ne s'évacue pas normalement. Donc, on a dû mettre un drain, puis une dérivation. Mm-hmm. Avec les cheveux, on ne voit rien. Et puis, je dois expliquer ça à tout le monde. Et puis, justement, je dois éviter du côté droit qu'il y a trop de gens, en fait. Et la foule, je dois l'éviter aussi. Et puis, justement, ben, moi, le problème, c'est, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, c'est qu'il y a des gens, des fois, quand ils sont vulgaires, ils disent « nique ta... » voilà. Et puis, je dis « ah oui, laquelle ?» Et puis quand je dis ça, ils partent en courant.
Oui. Bah là, vous faites preuve d'autodérision et finalement d'intelligence, j'ai envie de dire, sociale et d'humain. Finalement, ce n'est pas de rentrer dans le conflit et d'entrer en symétrie, mais simplement d'en rire, d'être dans l'autodérision.
Ah oui, hein, parce que c'est vrai, effectivement. Je suis obligé d'en rire parce que sinon, je vais taper tout le monde. Donc ça ne sert à rien. Puis moi, je ne tape personne. J'ai les médailles de karaté. On a une éthique. On n'a pas le droit de toucher quelqu'un. J'ai 10 ans de karaté, self-défense, 2 ans de boxe. Donc, même du catch, donc voilà, mais on n'a pas le droit de toucher quelqu'un.
Ah ben, je vais rester copain avec vous, hein, mon...
Ah non, mais moi, je ne suis pas là pour que les gens me détestent ou que les gens m'aiment.
Je vous taquine, vous avez tout à fait raison.
Moi, tout ce que je veux, c'est que les gens ils me respectent. Qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas, ça, je m'en fiche.
Mais comme on a dit tout à l'heure, l'amour, ça commence déjà par se respecter mutuellement.
Voilà. Exactement. Et c'est se respecter soi-même, surtout.
Oui.
Parce que, voilà, moi, je me suis mutilée aussi quand j'étais plus jeune, mais j'ai arrêté ça. La mutilation, j'ai arrêté, parce que ça ne sert à rien pour moi. personnellement.
On disait tout à l'heure, apprendre à s'aimer soi-même, c'est apprendre à se connaître, apprendre à... Et c'est quand on commence à, dans ce cheminement-là. Alors, c'est un cheminement qui prend du temps, mais c'est un processus. Hein. On parlait souvent dans nos émissions avec Elvio, notamment. Je salue Elvio, d'ailleurs, qui devait être avec nous. Et je salue Eliane aussi, d'ailleurs, qui sont grippés pour l'un et pour l'autre. Je vous envoie, en tout cas, Pavillon Nomade, on vous envoie ici plein de bonnes vibes pour vous retrouver sur les ondes, à l'animation. Mais c'est vrai, quand on parle de rétablissement, c'est un processus. La rencontre à soi, l'amour à l'autre, c'est un processus. Et ça ne s'apprend pas, ça se teste, c'est des échanges. D'ailleurs, Annika, vous, quand on parle d'amour, vous nous avez dit tout à l'heure, vous parliez de Prince Charmant. D'ailleurs, on lui a dédicacé une super chanson. Quand on parle d'amour, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Comment ça vous parle ?
Bah, y a l'amour de soi, déjà, qui est très compliqué. Qui va pas, en tout cas, qui n'a pas été pour moi d'office. Il m'a fallu des années pour m'aimer un petit peu. Et puis, en fait, c'est très compliqué d'aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même. C'est ultra dur. Et on est dans un monde où c'est qu'on ne nous donne pas forcément les clés pour pouvoir s'aimer tout seul. On ne nous dit rien. On n'a pas un petit pack où c'est que c'est écrit « Bon, bah maintenant, pour t'aimer toi, tu vas devoir faire ça, ça, ça. » Il n'y a rien. On part dans le vide. Donc, c'est douloureux, difficile. Et puis après, ben, soit on a des personnes autour de nous qui sont très aimantes, soit au contraire, vous avez des personnes qui sont mal aimantes. Et puis là, c'est encore pire. Parce que là, non seulement on ne se sent pas bien, mais on est dans le reflet de ce que la personne nous envoie, en fait.
Ouais. Vous avez raison, et quand vous parliez de « on n'a pas de Pâques » qui nous dit comment s'aimer soi-même, on est aussi dans une génération où on a, pour utiliser votre terme de Pâques, un contre-Pâques qui est celui de diktat de l'image.
La société.
Alors, je veux dire, la société, c'est nous, hein, c'est nous tous. Hein, ouais. La société, c'est ce qu'on est, ce qu'on accepte nous en termes de capacité humaine à dire. Une des plus grandes forces, c'est quand même le boycott. Hein. Si on ne veut pas que des choses s'installent, ben, on ne les achète pas ou on ne les regarde pas. Mais c'est vrai qu'on... Je peux comprendre que ce soit difficile aujourd'hui d'apprendre à s'aimer soi-même. Si dès tout petit, dès tout jeune, dans les réseaux sociaux, on nous apprend que finalement, le stéréotype de quelqu'un de beau et de lisse, il doit être comme ça. Bah, c'est clair que moi, quand je me regarde dans la glace et que je regarde ces dictats, je me dis, bah, putain, mais non, bah, moi, je m'aime quand même et je rigole de mon visage. Et peut-être, en conclusion, hein, apprendre à s'aimer, c'est aussi d'apprendre à être dans l'autodérision de soi-même, de pouvoir rigoler de soi. Déjà, peut-être, ça permet un peu de dédramatiser ces choses. En tout cas, voilà, notre voyage radiophonique s'achève doucement. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités du jour pour leurs mots, leurs émotions et leur partage. Merci d'avoir partagé vos flocons et vos traces avec nous. Même à la radio, la neige peut nous rassembler, nous faire sourire et rêver. Je vais donner le mot de fin à Sillard. Sillard, on vous écoute.
C'est ça, exactement. Si j'ai un message à passer à tous les parents, à tout le monde, apprenez à vous aimer. Je sais que vous avez des traumatismes, c'est compliqué à parler, mais apprenez à vous aimer, c'est pas une faiblesse, c'est ça qui fait la force de l'humain. Merci beaucoup.
Vous avez raison, restez attentifs à la météo intérieure. On se retrouve jeudi prochain, même endroit, même heure, pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. On se quitte avec une chanson de Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Slowly what I only know the
dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Through the panic